VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, bienvenue dans cette édition du lundi 16 janvier 2023. Avec vous, Eric Manela-Kidza, voici d'abord le sommaire. Au Mali, 4 gendarmes ont tué ce dimanche dans une embuscade dans l'ouest du pays. Au nord du Burkina, une cinquantaine de femmes enlevées par des djihadistes présumés en RDC. Au moins 10 morts dans un attentat contre une église dans le nord Kivu. Au Nigeria, des hommes armés tuent un prêtre et enlèvent 5 fidèles. Au moins 67 morts dans la catastrophe aérienne, la plus meurtrière au Népal en 30 ans. Le pays observe ce lundi une journée de deuil national. Le CHAN, championnat d'Afrique des Nations de football, se poursuit en Algérie. Vous aurez plus de détails dans les sports de Élysée Sonia. Les investisseurs sont préoccupés par une activité pétrolière en recul dans les pays d'Afrique centrale. Nous en parlons dans la page économie, mais d'abord le journal. 4 gendarmes maliens ont été tués et 3 blessés dimanche dans une embuscade dans l'ouest du pays, a indiqué la gendarmerie. 2 véhicules de gendarmerie ont été brûlés et 2 autres surmontés de mitrailleuses ont été capturés par les assaillants lors de cette opération menée à Kouala. 2 assaillants ont été tués et d'autres faits prisonniers. La gendarmerie n'a pas précisé dans son message à qui l'attaque était attribuée. Toujours au Mali, les fidèles de l'imam Mahmoud Diko ont réclamé ce dimanche des explications à la junte malienne pour l'emploi à la veille de la lacrymogène lors d'un rassemblement samedi à l'aéroport de Bamako. À son retour d'Arabie Saoudite, l'imam Diko a été la figure tutélaire d'un mouvement de contestation qui a précédé le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta par les colonels en 2020. Il a ouvertement exprimé ses désaccords avec la junte. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi par des djihadistes présumés à Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué les responsables locaux et des habitants de cette localité régulièrement touchés par des violences. Le point avec Rosine Monezer.
Selon le témoignage de plusieurs habitants et de responsables locaux souhaitant rester anonymes, un premier groupe d'une quarantaine de femmes a été enlevé à une dizaine de kilomètres au sud-est d'Arbinda et un autre d'une vingtaine le lendemain au nord de cette commune. Certaines ont pu s'échapper et regagner leur village pour témoigner. Nous pensons que les ravisseurs les ont amenées dans leurs différentes bases, a indiqué un habitant. Selon des responsables locaux qui ont confirmé les enlèvements, l'armée et ses supplétifs civils ont effectué des ratissages de la zone sans succès. La commune d'Arbinda se situe dans la région du Sahel, dans le nord du Burkina Faso, une zone sous blocus de groupes djihadistes et qui est difficilement ravitaillée en vivres. Près d'un million de personnes vivent actuellement dans des zones sous blocus dans le nord ou l'est du pays, selon les Nations Unies.
En RDC, au moins 10 personnes ont été tuées et 39 blessées dimanche dans un attentat à la bombe dans une église du nord-est du pays. Les autorités attribuent l'attaque à un groupe armé affilié à l'État islamique. Chérubin Dorcine.
Cet acte purement terroriste s'est produit dans une église pentecôtiste de Kassindi, ville de la province congolaise du Nord Kivu, frontalière avec l'Ouganda, a expliqué le porte-parole de l'armée de la RDC, Anthony Mwalushayi. Il a fait état dimanche après-midi de 10 morts et 39 blessés et de l'arrestation d'un suspect de nationalité kenyane, précisant que des enquêtes étaient en cours. Une figure de la société civile, Joël Kitausa, a lui évoqué 10 morts et 58 blessés. Le gouvernement de la RDC a condamné dans un tweet du ministère de la Communication l'attentat à la bombe perpétré visiblement, affirme-t-il, par des terroristes ADF, les forces démocratiques alliées. Les ADF, rebelles musulmans d'origine ougandaise, sont actifs dans le nord du Nord Kivu et au sud de l'Ituri, autre province congolaise. Ils figurent parmi les plus meurtriers des quelques 120 groupes armés présents dans l'est de la RDC.
Des hommes armés ont tué dimanche un prêtre catholique et enlevé 5 fidèles lors de 2 attaques distinctes dans le centre et le nord-ouest du Nigeria. Ils ont mis le feu à la maison du père Isaac Ashi après avoir échoué à y accéder, a déclaré le porte-parole de la police de l'État du Niger. Les assaillants ont blessé par balle un autre prêtre alors qu'il tentait de s'échapper. Le père Collins a été transporté d'urgence à l'hôpital pour y être soigné. Toujours au Nigeria, les forces de sécurité ont libéré ce dimanche 12 personnes qui avaient été kidnappées la semaine dernière par des hommes armés dans une gare du sud du pays, ont annoncé les autorités locales. En Somalie, 8 personnes ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée revendiquée par les islamistes Shebab dans le centre du pays. Une offensive d'envergure est en cours pour reprendre du territoire aux djihadistes. Jean-Roger Bion.
L'attaque s'est produite samedi après-midi à Bouloghoud, une ville de la province de Iran où les forces gouvernementales et des clans locaux combattent les insurgés liés à Al-Qaïda depuis début juillet. Un homme a fait exploser une voiture près d'un bâtiment administratif, a déclaré Abdoulaye Mohamoud, un responsable de la police locale. Une deuxième attaque a été déjouée et un suspect a été interpellé alors qu'il tentait de fuir un véhicule bourré d'explosifs, a indiqué la police. Les islamistes Shebab ont revendiqué ces attaques dans un message transmis via leur service de communication. Le gouvernement a envoyé en septembre l'armée soutenir des milices connues sous le nom de Makawisley. Cette offensive appuyée par la force de l'Union africaine en Somalie et des frappes aériennes américaines a permis de reconquérir de vastes territoires dans les 2 états du centre de la Somalie, les Chabel, où se trouve la province de Iran et le Galmudug. Mais les Shebab continuent de perpétrer des attentats sanglants en représailles.
Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annulé sa participation au Forum économique mondial de Davos en Suisse en raison de la crise énergétique aiguë que traverse son pays, a annoncé ce dimanche son porte-parole. Monsieur Ramaphosa doit s'entretenir avec Eskom qui produit plus de 90% de l'électricité du pays et des dirigeants politiques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Népal observe ce lundi une journée de deuil national le lendemain de la catastrophe aérienne qui a fait au moins 67 morts à Pokhara dans le centre du pays où les recherches devaient reprendre dans la carcasse de l'avion accidenté. Il s'agit de l'accident aérien le plus meurtrier en 3 décennies au Népal. Yakuba Ouedraogo.
L'avion de la compagnie aérienne Yeti Airlines, en provenance de la capitale népalaise, Katmandou, s'est écrasé dimanche matin près de l'aéroport local de Pokhara, au centre du Népal où il devait atterrir. Cette ville est une porte d'entrée pour les pèlerins religieux et les trekkers du monde entier. Le bimoteur transportait 72 personnes, 68 passagers et 4 membres d'équipage, a rapporté Sudarshan Bartwala, porte-parole de la compagnie. Selon la police, 31 corps ont été transportés dans les hôpitaux et 36 autres avaient été trouvés dans le profond ravin où s'est écrasé l'avion. L'avion s'est écrasé dans des gorges où les recherches de corps sont difficiles, a déclaré un porte-parole de l'armée, Krishna Prasad Bandari. Aucun survivant n'a été trouvé pour l'instant, a-t-il précisé, soulignant que les secours se poursuivaient.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden a estimé ce dimanche que le célèbre rêve d'égalité et de justice de Martin Luther King n'était pas encore devenu réalité, a dit le président américain, le premier en exercice à s'exprimer pendant l'office du dimanche à la Ebenezer Baptist Church d'Atlanta. C'est là qu'officier Martin Luther King qui aurait eu 94 ans ce dimanche. M. Biden a évoqué le plus célèbre discours de l'icône de la lutte pour les droits civiques et contre les discriminations raciales. La bataille pour l'âme de l'Amérique est éternelle. C'est une lutte constante pour défendre cette conviction sacrée que nous sommes créés égaux et à l'image de Dieu. La Californie est déjà détrempée après une série de tempêtes qui ont fait au moins 19 morts, doit subir ce lundi un nouvel épisode intense de précipitations avant qu'un temps plus sec ne s'installe. L'État de l'Ouest le plus peuplé des États-Unis s'apprête à avoir déferlé son 9e épisode de pluie soutenue après 2-3 semaines. L'OTAN a annoncé ce dimanche que l'Ukraine pouvait s'attendre à recevoir de nouveaux armements lourds occidentaux dans un futur proche, tandis que le président russe Vladimir Poutine a évoqué une dynamique positive pour ses troupes sur le front. Parallèlement, les secours ont s'activé toujours hier soir pour retrouver des survivants dans les ruines d'un immeuble de Dnipro dans l'est de l'Ukraine, touché la veille par une frappe dont le bilan est d'au moins 30 morts. Des dizaines de personnes sont portées et disparues. Des pays qui ont déjà promis à l'Ukraine des chars légers sont les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et la Pologne. Les inégalités économiques ont atteint des niveaux extrêmes et extrêmes plutôt et dangereux, écrit l'ONG Oxfam dans son rapport annuel sur les inégalités au cours d'envoi d'une semaine d'échanges entre élites économiques et politiques dans la station de ski suisse de Davos. Les milliardaires ont doublé leur fortune tout en étant de plus en plus nombreux, affirmait Oxfam. Sur 100 dollars de richesse créée, 54,4 dollars sont allés dans les poches des 1% le plus aisé, tandis que 70 centimes ont profité aux 50% les moins fortunés, constate l'ONG qui participe dans ce forum de Davos. Les super profits des entreprises sont aussi dans le viseur d'Oxfam.
Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Mohamedou Oumfa.
L'activité économique dans les pays d'Afrique centrale devrait continuer de subir les contre-coups de l'environnement international, conjugué aux difficultés endogènes, indique la Banque centrale de la région dans une note de conjoncture. Les investisseurs, précise la note, sont préoccupés par une activité pétrolière en recul et une demande intérieure morne, à quoi il convient d'ajouter les difficultés liées aux circuits d'approvisionnement domestiques et internationaux, des aléas climatiques et des problèmes infrastructurels. Pour stopper le trafic illégal d'or du sang vers les pays voisins, notamment le Rwanda, la RDC a conclu un partenariat avec les Émirats arabes unis qui a donné lieu vendredi à une première expédition symbolique de 28 kg d'or équitable. L'objectif est d'expédier d'ici 3 mois environ 1 tonne par mois d'or certifié et d'arriver à terme à quelque 15 tonnes par an. Madagascar devrait recevoir une enveloppe de 125 millions de dollars du Fonds mondial pour lutter contre le VIH, le paludisme et la tuberculose. Selon le mécanisme de coordination du fonds dans le pays, ce financement qui s'étalera sur la période 2024-2025 devrait permettre à la population malgache l'accès à des informations à jour, exactes et claires sur chaque évolution de la situation pathologique des 3 maladies.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Élisée ce matin. Élisée, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous.
Le championnat d'Afrique des Nations, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, se poursuit en Algérie.
Oui, avec toujours la première journée des matchs de poule. Et hier, Madagascar, à l'issue de son premier match du CHAN, a battu le Ghana 2-1. Victoire également du pays hôte, l'Algérie qui a bien démarré son tournoi 1-0 face à la Libye. Le Sénégal aussi a réussi son entrée en dominant la Côte d'Ivoire 1-0. Une victoire que savoure son sélectionneur Pape Thiaw.
On sort d'un match très difficile, mais c'est bien parce qu'on sort avec les 3 points. Pour moi, c'est une bonne entente pour entrer dans une compétition. Tous les matchs comptent, donc ça ne veut pas dire qu'on a gagné ce premier match, on va se relâcher parce qu'on sait pourquoi on est là. Ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas qualifié dans cette compétition. Là, on vient de voir vraiment c'est un niveau très élevé. Je pense qu'il faut continuer à être compétiteur et rester focus sur un objectif qui est très 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 important et surtout rester concentré parce qu'on sait qu'on aura 2 autres matchs très 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 difficiles.
Les Sénégalais qui prennent seuls la tête du groupe B avec 2 points d'avance sur l'Ouganda et la RDC qui se sont neutralisés 0-0.
Aujourd'hui, fin de cette première journée des matchs de poule.
Tout à fait. Deux matchs donc au programme pour clore cette première journée dans le groupe D. Le Mali va affronter l'Angola et au niveau de la poule E, on assistera au derby de l'Afrique centrale entre le Cameroun et le Congo.
Enfin, du handball Élysée avec le mondial en Pologne et en Suède.
Et fortune diverse pour les représentants africains après la deuxième journée du tour principal. L'Égypte, double championne d'Afrique, a validé sa qualification pour le second tour sans surprise après avoir dominé le Maroc 30-19. Par contre, ça se complique pour la Tunisie, battue 31-29 par la Belgique et déjà éliminée l'Algérie qui s'est inclinée devant le Qatar 29-24.
C'était les sports avec Élysée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manelakiza, place au dossier du jour. Au Mali, les acteurs politiques restent divisés sur la nécessité ou non de doter le pays d'une nouvelle constitution qui pourrait faire l'objet d'un référendum prévu probablement au mois de mars. Si pour certains partis politiques, cette nouvelle constitution ne garantit pas la stabilité du pays, d'autres par contre optent pour une révision. Le reportage de Mariam Kouyaté à Bamako.
Au Mali, plusieurs des partis politiques estiment que la nouvelle constitution n'est pas opportune, qu'elle porte les germes de l'instabilité politique et l'instabilité des institutions du pays. Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, PSDA.
La nouvelle constitution ne rassure pas la stabilité dans notre pays. Pour ce qui est du référendum prévu en mars, les éléments préparatoires ont pris un grand coup en termes de retard. Tout porte à croire que le mois de mars risque d'être corsé et compliqué pour que le référendum ait lieu. Comment tenir les élections en mars lorsque, en une semaine, notre pays a subi presque une dizaine d'attaques terroristes?
Le parti Union pour la démocratie et la République URD exhorte de son côté à un consensus pour une réussite du référendum et des élections à venir. Gagnon Koulibaly, président de l'URD.
Nous pensons qu'avec la mise en place de la deuxième commission pour la finalisation du projet, il serait mieux de rassembler le maximum de Maliens. C'est un projet qui tient à cœur à tous les Maliens, à tous les partis politiques.
Le cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour le retour à l'ordre constitutionnel est plutôt favorable à une révision de la constitution. Amadou Goïta est le porte-parole de ce parti.
Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que notre pays a besoin de réformes. À la place d'une nouvelle constitution, nous proposons la révision de la constitution. Le démembrement de l'Inde doivent être mis en place 6 mois avant la tenue du référendum. Les démembrements n'ont pas été mis en place et nous avons des craintes que cela ne joue sur le chronogramme.
Compte tenu du désaccord autour de la nouvelle constitution, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Abdoulaye Maïga, a tenu à rassurer la classe politique lors d'une rencontre le jeudi dernier. Il dit que des efforts se poursuivront autour de ce projet de nouvelle constitution. Le référendum devrait bien avoir lieu au mois de mars. Mariam Kouyaté Bamako, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
La situation socio-humanitaire des enfants orphelins et des veuves de militaires s'est aggravée depuis la reprise de la guerre du M23 dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Le nombre de leurs dépendants sans assistance est en hausse et leurs conditions de vie se détériorent. Notre correspondant, Zanem Neti Zaidi, s'est rendu dans le camp Katindo à Goma. Reportage.
Marie-Louise est la veuve d'un soldat qui vit dans les camps Katindo à Goma. Elle est responsable d'une association qui s'occupe des veuves comme elle. Elle explique que depuis la reprise de la guerre du M23, leur nombre augmente.
Le nombre d'enfants orphelins et de veuves augmente de jour en jour. Je peux vous donner un exemple. Mon mari m'a laissé 5 enfants, l'autre en a laissé 10, l'autre 11 ou même 6. Et dans ces calculs, vous comprenez que dans seulement 3 familles, vous vous rendez compte que les enfants sont nombreux. Et il est si difficile de survivre.
Il n'a pas difficile vraiment plus.
Dadi Malekani, un enfant orphelin, nous dit que depuis la mort de son père, la vie est devenue trop compliquée dans sa famille.
Il était parti et est mort au front. Il nous a laissé son ami qui devait beaucoup nous aider, mais il mange tout notre argent. Nous sommes restés ici à souffrir. Seule ma mère passe son temps à chercher quelqu'un pour faire la lessive afin que nous puissions trouver de la nourriture. Nous mangeons avec difficulté, nous dormons avec difficulté et je reste à la maison sans étudier.
L'association des enfants des militaires de la RDC souligne que cette guerre du M23 a rendu leur vie plus difficile. Prince Mabake, président de l'organisation, dit que la guerre a fait beaucoup de victimes parmi les enfants des militaires. Et certains d'entre eux sont aussi déplacés.
Connaissons beaucoup des camps de victimes de cette guerre dans nos familles des militaires. Et donc, la guerre vraiment nous a détruits.
Cette situation suscite l'intérêt de plusieurs acteurs de la société civile à Goma. Ils invitent le gouvernement congolais à améliorer l'image de l'armée congolaise en prenant en charge ses enfants orphelins. Pour Espoir Aspirine, militant de la Lucha, il est impératif que l'État congolais prenne en charge ses enfants afin qu'ils ne soient pas une source d'insécurité dans la ville de Goma.
Lorsque le gouvernement laisse ses enfants des militaires, premièrement, c'est décourager d'autres jeunes qui peuvent envier cette carrière. Deuxièmement, c'est de préparer les bandits dans l'avenir. Troisièmement, c'est quelque chose qui montre aussi cette manque de courage et de bravoure à notre gouvernement d'entretenir son arme.
La guerre du M23 se poursuit dans la province du Nord Kivu, principalement dans les territoires de Rutshuru. Les rebelles occupent toujours plusieurs cités stratégiques, dont Bunagana, une cité frontalière de l'Ouganda, mais aussi proche du Rwanda. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
Au Cameroun, il faut encore des préalables avant l'application de la mesure d'interdiction d'exportation de grumes entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier dans les 6 pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Cette mesure vise à encourager la transformation locale du bois dans ces pays. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Junta.
Les préalables pour la mise en application de la mesure d'interdiction des grumes produites au Cameroun ont été recensés au cours d'une concertation à Yaoundé. Elle a réuni les experts de la filière bois, les partenaires au développement et les responsables du ministère des Forêts et de la Faune. Parfait Tanga, secrétaire général adjoint de la Fédération camerounaise des associations et professionnels de la seconde transformation du bois.
Il faudrait réviser la loi forestière pour permettre à nos PME et artisans d'avoir accès à un bois de qualité et d'origine légale. Il faut permettre aux PME et artisans d'avoir accès au financement pour leur permettre d'améliorer leur plateau technique, d'améliorer les conditions technologiques et aussi de se former.
Les enjeux et défis de l'interdiction de l'exploitation des grumes en zone CEMAC sont tels que le Cameroun doit atteindre le palier du troisième niveau de transformation du bois afin d'atténuer les impacts de cette décision sur l'économie nationale. Achille Wanke, chargé de projet pour le Centre pour l'environnement et le développement.
C'est une mesure, si elle est prise brutalement, elle peut entraîner une perte sèche. Les recettes fiscales. La fiscalité forestière rapporte à peu près 50 milliards de francs chaque année à l'État. Parce qu'il faut réussir à combler ce déficit-là.
Mais à long terme, cette mesure pourrait générer plus de revenus et une valeur ajoutée au Cameroun, d'après Achille Wanke.
Ça créerait beaucoup d'emplois. Les petits calculs qu'on a faits nous présentent à peu près 150 000 emplois qu'on pourrait créer en accentuant la transformation du bois. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on est à peu près à 50 000 emplois dans le secteur forestier.
Un plaidoyer a d'ores et déjà été lancé pour la mise en place au Cameroun des stratégies d'accompagnement de la mesure. Benoît Dameux, représentant de l'Environmental Investigation Agency pour le bassin du Congo.
Il faudrait que les gouvernements puissent, n'est-ce pas, être ensemble au niveau de la sous-région pour appliquer cette mesure de manière générale. La CEMAC a pris une décision et on souhaiterait que tous les pays s'alignent sur cette décision-là. Quelle qu'en soit la situation, on sait que ce sera difficile pour certains cas.
C'est depuis le 28 juillet 2021 que les pays de la zone CEMAC ont adopté la décision d'interdiction de l'exportation des grumes. Le Cameroun, pays membre de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, veut voir certaines conditions remplies pour une décision effective. Éric Tatudier, cadre de la sous-direction des agréments et de la fiscalité forestière au ministère des Forêts et de la Faune.
Parmi ces conditions préalables, il y avait l'accélération du processus de transformation du bois localement, le développement des infrastructures qui devraient permettre normalement cette transformation au niveau local, l'incitation à l'investissement. Actuellement, un certain nombre d'essences sont déjà interdites depuis la promulgation de la loi forestière d'exportation sous forme de grumes.
L'entrée en application de l'interdiction de l'exportation des grumes en zone CEMAC, initialement prévue le 1er janvier 2022, a même été différé d'un an. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Une exposition pour célébrer la diversité de la broderie et du tissage s'est ouverte le jeudi 12 janvier à l'Institut fondamental d'Afrique noire, IFAN de Dakar. Les détails avec Ginny Niwa.
L'événement créé par Chanel et intitulé Sur le fil est dans la continuité de son défilé Métier d'art lancé en 2021 à Paris, transporté pour la première fois en Afrique et à Dakar début décembre. Pour le président de Chanel SAS, Bruno Pavlovski, il est important de mettre en lumière ces métiers ancestraux.
On voulait aller un petit peu plus loin, sortir des codes de la maison Chanel et ouvrir sur cette exposition justement cette créativité, mais ce dialogue qui fait travailler des artistes de tout horizon, et notamment certains basés ici à Dakar, avec ces métiers ancestraux autour de l'artisanat, autour de la main, autour du tissage et des broderies.
Une vingtaine d'artistes, pour la plupart ouest-africains, sont exposés dans l'un des deux bâtiments du musée Théodore Monod de Dakar. Parmi eux figure le jeune malien Alassane Koné. Sur un morceau de tissu, Koné tire avec agilité un fil de laine avec ses doigts et peu à peu, un visage brodé se forme.
Mon inspiration, ça vient de l'environnement, les liens qui nous passent entre nous-mêmes. Comme les fils aussi, il y a des... Pour que je travaille sur mon tableau, je tire des liens sur des fils aussi, parce que j'ai fait des mélanges de couleurs.
Le parcours de visite thématique retrace certains savoir-faire sénégalais, avec notamment une section sur la teinture indigo, qui continue d'être modernisée par de jeunes artistes, et un focus sur la Casamance dans le sud du pays, berceau de la tradition du pagne tissé mandiac. Pour Riyad Fakri, membre du comité de direction artistique de la galerie, cet événement sert avant tout à créer un dialogue entre artistes et artisans.
On a soit pris des artistes qui utilisent déjà dans leur œuvre des méthodes et des techniques qui sont liées à l'artisanat, soit on a fait appel à des artistes dont le travail pouvait s'assembler avec certains artisans, qui utilisent des techniques et des méthodes locales, parfois ancestrale.
Les programmateurs espèrent susciter des vocations dans les métiers de la main ou susciter un regain d'intérêt dans ces métiers presque oubliés au Sénégal.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la réalisation de cette édition. Georges et Léonard Sagnon a assuré la mise en onde. Merci également à l'équipe de rédaction. Eric Manirakidza était avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, sur votre site internet voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Et à la prochaine.
gagner. Si tu comprends pas français, ça veut pas dire hôpital.